Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
J'ai commencé une série d'enseignements sur le thème « Les sept clés pour maximiser une nouvelle année ». Amen. Il y a une nouvelle année qui arrive. Et souvent, la nouvelle année, la fin de l'année, c'est le temps de la réflexion, mais c'est également le temps de la projection. Il faut pouvoir se projeter. Vous savez, Dieu a des manières spéciales de fonctionner, de marcher. Et ceux qui ont découvert ces secrets et qui les ont mis en application, en pratique, ont vu des résultats. Il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde aussi loin que tu peux regarder, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, des quatre points cardinaux. Et il dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Amen. Dieu s'est engagé à nous donner ce qu'on est capable de voir. Amen. Si tu peux voir ta guérison, c'est que tu peux rentrer dans cette guérison-là. Oh my God. Si tu peux voir ton entreprise, c'est que Dieu peut te la donner. Si tu peux voir ton mariage, c'est que Dieu peut te le donner. Si tu peux voir ton enfant, c'est que Dieu peut te le donner. Amen. Vous savez, très souvent on demande des choses à Dieu. Mais tant qu'on n'est pas capable de voir nous-mêmes dans notre esprit ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous, c'est comme si on n'a pas la semence qu'il faut pour que cette chose-là puisse se produire dans notre vie. Amen. Vous savez, lorsque vous enseignez ce genre de choses, certains vont vous dire « Ah, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du nouvel âge. » On va vous dire que oui, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment bibliques et ce genre de choses, mais il n'y a rien de plus biblique que ça. En réalité, je vais vous dire une chose qui est très importante. Le diable n'a rien inventé. Le diable ne fait que copier ce qui existe déjà. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a inventé. Et le diable, il vient pour le pervertir. Aujourd'hui, par exemple, le sexe. On va dire, oh, c'est diabolique. Mais le sexe, ce n'est pas diabolique. C'est Dieu qui a créé le sexe, qui a pourvu un sexe à l'homme et un autre à la femme. Et c'est lui qui a mis toutes ses sensations et tous ses sentiments dans le corps et dans le cœur de l'homme ainsi que dans celui de la femme. C'est lui qui a généré tout ce qui est comme chimie au niveau du cerveau, comme hormone qui est relâché et tout. Le diable n'a pas créé le sexe, le diable n'a fait que pervertir le sexe. Donc tout ce qui est originellement bon et positif pour nous faire avancer et pour nous permettre de nous développer et de nous multiplier et de grandir et d'aller de l'avant, c'est Dieu qui l'a créé. Et le diable est venu pour le pervertir, pour changer le but de la chose. Parce que Dieu crée toutes choses avec un but. Donc tout ce qui est visualisation, tout ce qui est foi, tout ce qui est succès, réussite, à l'origine, c'est Dieu. Et le diable est venu pour pervertir ça. Vous comprenez? Donc, de visualiser, de voir, ne vient pas du diable. Ce n'est pas le diable qui a créé ce concept. Le diable n'a rien créé. Amen. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu veut que tu puisses voir ton succès. Dieu veut que tu puisses voir ton ministère. Vous savez, avant de prêcher l'évangile, je me suis plusieurs fois vu en train de prêcher devant des foules. Et j'ai cru en ce que j'ai vu et je suis devenu ce que j'ai vu. Amen. Et ce que j'ai vu même, je ne le suis pas même pas encore devenu pleinement. Je suis encore dans le chemin. Mais tant que tu ne peux pas voir la chose dans ton esprit avant que ça se réalise, Dieu ne peut pas le faire dans ta vie. Donc ne te limite pas dans ta vision. Ne te limite pas dans la projection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vous donner, c'est vrai, il y a une nouvelle année qui arrive. Mais le message va au-delà de 2010, au-delà de 2020, même au-delà de 2030. C'est en fait une manière d'agir, une manière de se comporter, une manière de s'organiser si on veut maximiser n'importe quel projet. Amen. Dis à ton voisin, maximiser un projet. Voilà. Un projet. Vous savez, Dieu, il aime les gens qui font des projets parce que Dieu lui-même, c'est le master mind des projets. L'homme est un projet de Dieu. Amen. L'homme est un projet de Dieu. Un jour, il s'est arrêté, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc l'homme est un projet de Dieu. Amen. Et le projet prend naissance d'abord dans la pensée, avant de se matérialiser. Amen. Et donc Dieu, lorsque vous faites des projets, tout de suite vous intéressez Dieu. Et Dieu va venir tout de suite là, passer à côté de vous. Maintenant, si vous savez ce qu'il faut faire pour l'interpeller, pour l'arrêter, afin qu'il s'associe avec votre projet, alors vous allez voir que votre projet, non seulement va voir le jour, mais il sera béni et il va grandir. Mais si vous ne savez pas quoi faire pour l'associer au projet, vous allez vous battre tout seul. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, dans le livre des Actes, lorsqu'il parle de la venue du Saint-Esprit, il dit, lorsque Pierre, en fait, parlait maintenant aux frères pour leur expliquer ce qui se passait, il leur a cité un passage d'Ésaïe. Et il a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est dans Actes chapitre 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, quand il répand de son esprit sur toute chair, tout de suite, quelque chose commence à se passer. Qu'est-ce qui se passe? Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, prophétiser, c'est dire des choses qui vont arriver. Donc, vous allez commencer. Quand le Saint-Esprit vient, on commence à parler de l'avenir déjà. Ça, c'est un des premiers signes. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. C'est, ça, c'est une des premières manifestations de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Il le fait sortir de son quotidien pour pouvoir le projeter dans l'avenir. Ça, c'est ce que Dieu fait. Deuxièmement, il dit quoi? Vos jeunes gens auront des visions. Le même mot qui est traduit par vision a la même racine que projet. C'est en quelque sorte de dire que vos jeunes gens auront des projets. Oh my God. Vos jeunes gens vont commencer maintenant à projeter des choses. Ils auront des visions. Ils vont commencer à voir des choses qui ne sont pas comme si ces choses-là étaient. Et ils vont commencer maintenant à travailler dans le sens d'amener ces choses-là à l'accomplissement et à la réalisation. Vous voyez? Le fait d'avoir des projets, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, tout de suite, il provoque en lui le désir de bâtir, le désir de façonner, le désir de créer, le désir de faire. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Et même les vieillards, et vos vieillards auront des songes. Même les vieillards vont commencer à rêver. Alléluia. C'est ça. Les gens pensent que, il n'a pas dit, il répandra de son esprit sur toute chair, et quand l'esprit viendra, des guérisons vont commencer à s'opérer, il y aura des délivrances. Il a parlé ni de délivrance, ni de guérison. Il a parlé de prophétie, de songe et de vision. Alléluia. Parce qu'en réalité, tout ce qui est guérison, délivrance, et toutes les opérations de miracles sont en réalité des éléments qui viennent pour pouvoir nous aider dans la réalisation de nos projets, de nos visions. Ce n'est pas la finalité. Avoir une guérison n'est pas la finalité. Avoir une délivrance n'est pas le but. Le but, c'est d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose. Et dans la course de la réalisation, vous avez des obstacles. Et Dieu, maintenant, vient pour vous soutenir pour que vous puissiez surmonter ces obstacles et atteindre le but. C'est pour ça que la Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Les signes ne sont pas le but. Les signes sont les accompagnateurs. Trouvez-moi quelqu'un qui a une vision. Je vous montrerai quelqu'un qui voit des signes et des miracles s'accomplir dans sa vie. Trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas de vision. Et je vous montrerai quelqu'un qui n'aura ni miracle ni manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que la Bible dit Dieu donne la semence au semeur. Les miracles accompagnent les visionnaires. Les miracles accompagnent les gens qui ont des visions. Même dans le monde, quand quelqu'un a pour objectif de créer une entreprise, une multinationale, il va avoir des miracles. Il va rencontrer des gens qui seront des éléments importants pour l'accomplissement de la chose qu'il est en train de poursuivre. Mais si vous avez quelqu'un qui navigue au gré du vent, mais quand tu navigues au gré du vent, quel genre de miracle tu veux qui se manifeste pour toi? Tu vois, Dieu, c'est ça. Répandrez mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alléluia. Donc l'Église qui veut être puissante doit être une église qui est portée par une vision. Elle doit vouloir accomplir quelque chose. La vision ne peut pas être, oui, il faut qu'on soit guéri. La vision ne peut pas être, il faut que je sois délivré. La vision doit être plus grande que les besoins quotidiens. La vision doit être, on doit gagner la France. La vision doit être, on doit gagner le monde. La vision doit être, on doit gagner des âmes. Et dans, maintenant, dans la course, maintenant, vers l'accomplissement de cette vision, tout ce qui constitue des obstacles à l'accomplissement de la vision seront solutionnés un à un. Même pour ta vie, tu dois avoir une vision qui va au-delà de ton genou qui te fait mal. Sinon, tu risques de courir derrière un genou qui te fait mal pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais si tu te fixes, si tu as une vision qui va plus loin que ton genou qui te fait mal, tu vas te rendre compte à un moment que tu es en train de courir, que ton genou ne te fait pas mal, parce que tu as détourné ton objectif de ce genou-là pour pouvoir le fixer sur la croix et sur un but pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Poursuis une vision. Oh my God. Alléluia. La Bible nous parle de tous ces grands hommes-là qui ont marché, qui par leur foi ont accompli des choses extraordinaires. Personne n'est reconnu dans la Bible pour avoir reçu une guérison ou quoi que ce soit. Ils sont reconnus pour avoir accompli quelque chose et pour avoir manifesté leur foi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu va nous reconnaître et que nous allons être reconnus au ciel. Donc nous avons parlé donc de 7 clés pour pouvoir maximiser un projet. Moi, je vais dire projet, pouvoir maximiser un projet, pouvoir maximiser donc, et on l'applique aussi à la nouvelle année qui vient. Et nous avons vu donc que la première des choses, dans tout ce qu'on fait, quel que soit le projet, la première des choses, il faut honorer Dieu. Amen. Il faut honorer Dieu. Que ce soit un projet familial, un projet professionnel, un projet ecclésiastique, un projet de n'importe quel ordre, il faut d'abord honorer Dieu. Parce que c'est Dieu qui va garantir le succès du projet. Amen. Et on ne l'honore pas. Honorer Dieu, c'est quoi? C'est le mettre au début. C'est le mettre en premier. Il ne vient pas comme un maillon. Il vient comme la pièce essentielle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Donc c'est elle, c'est cette pierre-là qu'on met pour pouvoir tenir l'édifice. Il est au début, dans le mariage, il est la pierre angulaire. Alléluia. Dans les affaires, il est la pierre angulaire. Dans toutes tes activités, il est la pierre angulaire. Tu dois l'honorer. Ça veut dire que quand tu commences à penser à ton projet, commence déjà à penser qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu à travers le succès de cette entreprise-là? Commence par définir la part de Dieu, pas la part de tes associés, pas ta part à toi-même. Parce que Dieu, tu peux pas le mettre sur le même pied d'égalité que toi. C'est Dieu d'abord. Qu'est-ce que tu vas apporter à Dieu? Pour ensuite commencer à discuter maintenant à côté. Amen. On va continuer. Deuxièmement, il faut rester concentré. Dis à ton voisin, reste concentré. Vous savez, il y a deux catégories de personnes qui sont dangereuses et qui n'accomplissent rien dans leur vie. Il y a ceux qui n'ont pas de projet, et puis il y a ceux qui ont trop de projets. Ceux qui ont trop de projets. Lui, entre le 1er janvier et puis le 15 janvier, il a déjà commencé 10 projets, mon ami. Lui seul, il veut faire en même temps un restaurant, en même temps il veut ouvrir une compagnie de sécurité, et en même temps il veut faire ci, il veut faire ça. Tu sais, quand tu multiplies le nombre de projets, qu'est-ce que tu fais en réalité? Tu entres dans une forme de distraction, tu vois. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu deviens quelqu'un qui poursuit 2 lièvres, 3 lièvres à la fois. Déjà, en attraper un seul, c'est compliqué. Mais s'il y a 5 lièvres que tu veux poursuivre, comment tu vas faire pour les attraper? Tu peux pas. Au moment où il part dans tous les sens. Quand tu vois un qui passe, il y en a qui veulent sauter sur les opportunités. Donc quand il y a un lièvre qui passe, il veut sauter là en même temps. Alors qu'en réalité, peut-être que celui qui est plus proche est plus difficile à attraper. Mais si tu es conduit par une vision, par un but que tu t'es fixé, Amen. Et que tu le poursuis jusqu'à l'attraper. En, tu vois, en peut-être en 2 heures ou en 3 heures, tu peux attraper les 5 lièvres. Si tu commences d'abord pour en poursuivre un. Et après, une fois que tu l'as attrapé, tu poursuis le deuxième. Et une fois que tu as attrapé le deuxième, tu poursuis le troisième. Que de te mettre à poursuivre tous les lièvres à la fois et te rendre compte après plusieurs jours que tu n'as rien attrapé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre vie. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut avoir. En janvier, tu apprends le piano. En mars, tu apprends la batterie. En avril, tu apprends la guitare. Après, tu apprends la flûte et tout ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, tu ne sais jouer ni à la batterie, ni à la guitare, ni au piano, ni chanter. Tu es un bricoleur. Tu te dis, bon, cette année, je prends une année, j'apprends un instrument. Cette année, ça sera par exemple le piano. Jusqu'à la fin de l'année, 1 an de piano, tu apprends les méthodes, tu écoutes, tu essaies de reproduire et tout. À la fin de l'année, tu seras un expert en piano. L'année qui suit, tu apprends la guitare basse, par exemple. En 5 ans, tu auras appris 5 instruments. Mais quand on va te dire, tiens cet instrument-là, fais quelque chose, tu vas jouer comme un virtuose. Alors que si tu prends 5 ans et que chaque mois tu changes d'instrument, 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 tu vas te rendre compte que au bout des 5 ans, tu ne vas maîtriser aucun instrument. Est-ce que vous me suivez? Restez concentré. Fixez des objectifs et restez concentré sur l'objectif jusqu'à ce que vous le masterisiez, jusqu'à ce que vous le réussissiez. Amen. On va lire quelques histoires dans la parole de Dieu. Prenez 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Tu vois. On peut faire beaucoup de choses dans notre vie, mais elles ne sont pas toutes importantes ou même utiles. Hein? Dans 1 Corinthiens, il y a des choses qui ne sont même pas utiles. Ça bouffe ton temps, ça bouffe ton énergie, ça bouffe tes forces. Et tu poursuis ça. C'est l'ennemi qui est derrière ces choses-là aussi. Le diable est malin. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Là, Paul nous dit quelque chose. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout... Non, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit d'abord, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ensuite, il a dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Tout ne bâtit pas, tout ne construit pas, tout ne te permet pas d'avancer. Amen. Donc, dans la vie, il faut sélectionner ce qui édifie, ce qui te rend plus fort, ce qui te rend plus intelligent, ce qui te rend plus instruit, plus cultivé, ce qui te permet d'avancer, de te développer. Ce sont ces choses-là qui vont... que sur lesquels tu dois passer beaucoup de temps. Amen. Et éliminer les choses qui n'édifient pas. Diminuer les choses qui n'édifient pas. C'est comme ça que tu vas maximiser ton année qui vient en faisant le tri. Cette année-là, je n'ai pas envie de reculer. Sachez que celui qui n'avance pas, il recule. Celui qui ne va pas de l'avant, il recule. Et il y a des gens qui ont l'impression... qui pense que lorsque on arrive à un certain âge avancé, on peut se permettre maintenant de ne plus avancer. C'est faux. Je vais vous dire aujourd'hui que dans des universités, vous avez des éminents professeurs, mais qui ont plus de 70 ans. Ils ont l'âge de la retraite passée, mais ils continuent de donner des cours à l'université. Au contraire, ils sont même encore des meilleurs professeurs. Ce sont des personnes, des fois, qu'on paye pour animer des séminaires, des colloques, où ils enseignent encore des milliers de personnes, des personnes qui écrivent des livres à un âge assez avancé. Au contraire, quand maintenant tu as l'âge de la retraite, tu dois pouvoir maintenant écrire des livres. Alléluia. C'est là maintenant que tu commences à écrire, à voyager, à aller présenter ton livre, à rencontrer des personnes, à partager ton expérience. Qui a dit que l'âge, quand on arrivait à un certain âge, Il fallait rester là et puis commencer à mourir. Oui, parce que quand tu n'as pas d'activité, quand tu n'as rien qui challenge ta pensée, ton esprit, quand tu n'as rien à transmettre aux gens, tu finis par mourir. Tu diminues, tu ralentis. C'est là qu'on commence à penser à Alzheimer. Tu peux même plus même te rappeler ta date de naissance. Des fois même, il y en a qui oublient même leurs enfants. Pourtant, si tu maintiens ton cerveau en activité, il va rester jeune. Moi, je le dis, je vous aime. Toutes les mamans, les papas, je vous aime. Mais sachez une chose, à 80 ans, là, vous devez même continuer d'enseigner la parole. Vous devez réunir même les jeunes filles et puis leur prêcher l'évangile avec feu. Et avec et grâce à votre expérience et à ce que vous avez accumulé comme connaissance. Ne vous voyez jamais en cessation d'activité. Jamais. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Si tu te vois enfermé dans une maison avec de la nourriture que t'amènes et puis la télévision, c'est ça ta vision de ton avenir. Et c'est ce que tu prépares, mais c'est ce que tu vas devenir. Mais si tu te vois en train de voyager, en train d'enseigner, en train d'écrire, mais tu vas commencer, dès maintenant, tu vas te préparer à écrire. Tu vas préparer le contenu de tes interventions. Et tu vas devenir quelqu'un qui va apporter beaucoup. Il y a être une personne d'un certain âge ne veut pas dire que on n'est plus utile pour la société. Au contraire, on est fort d'un bagage. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. Il n'y aura pas d'Alzheimer ici au nom de Jésus. Ni Parkinson, ni tout ce que vous voulez. Les personnes qui réussissent ne poursuivent généralement qu'un seul but. Amen. Il faut éviter de faire trop de choses. On va voir une autre histoire dans Luc chapitre 10. Dis à ton voisin, évite de faire trop de choses. Évite de faire trop de choses. Amen. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. La Bible, Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Vous connaissez toute cette histoire-là, non? Hein? Je lis à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Il faut souligner cette partie-là. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pardon? Ma femme dit, il lui a mal répondu. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a trop de choses pour lesquelles tu t'inquiètes. Et trop de choses pour lesquelles tu t'agites. Tu vois. Jésus a vu ça comme un défaut. Il n'a pas vu ça comme une qualité, il a vu ça comme un défaut. Vous avez des gens qui sont toujours agités. Il y a une seule chose qui doit t'agiter. La parole de Dieu. Il y a une seule chose qui doit t'inquiéter. Ta relation avec Dieu. Les autres là ne méritent pas que tu t'inquiètes et que tu t'agites pour ça. Oh, tu as déjà, il s'inquiète et il s'agite pour tout. Tu as un petit problème ici, il est inquiété, il est agité. Un autre ici, il est inquiété. Ça fait qu'il ressemble à quelqu'un. Moi, j'imagine Marc. Moi, quand j'ai lu cette histoire, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu une vision. J'ai vu une dame qui sortait de sa cuisine avec la sueur sur son visage. Elle avait pris un gros morceau de pain, attaché ça sur ses reins. Elle avait retroussé ses manches. Jésus est chez toi. Toi, tu es dans la cuisine. Elle avait de bonnes intentions. L'intention, c'était pour le recevoir. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus avait parcouru des kilomètres et des kilomètres pour venir leur donner un enseignement. Pour venir leur communiquer une parole. Pour venir leur communiquer. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un, il faut lui poser la question d'abord. Qu'est-ce qui t'emmène, Seigneur? Quelle est ta mission? Jésus était venu pour une mission. Jésus n'est pas venu pour manger. Il y avait des restaurants là où il était. Même sur la route, il aurait pu manger. La vie n'est pas que le manger et le boire. C'est lui-même qui a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est vrai que le mettre à l'aise, le mettre au beurre et tout ça, c'est intéressant. Tu vas dire, moi, j'ai reçu Jésus. Mais est-ce que le but que Jésus recherchait ce jour-là, c'était qu'on s'occupe de lui et qu'on lui donne à manger? Elle ne lui a même pas demandé. Dès qu'elle a vu, oh, le Seigneur Jésus vient chez moi. Ah, il faut que je nettoie le salon. Elle vient, nettoie. Après, elle rentre dans la cuisine. Ah, quelle nourriture je lui fais? Bon, je vais aller au marché. Je vais aller faire ceci. Mais tout ça, tu sais, ça peut frustrer l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est venu avec un message. Et tu n'es même pas disposé à écouter le message. Elle finit, elle dit, bon, elle va égorger le poulet. Après, maintenant, il faut le déplumer. Ensuite, il faut aller le cuisiner. Après, il faut aller faire le riz. Il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Donc, tu vois, la sœur, on est venu pour l'enseigner. On est venu pour lui donner un message. Et elle est au four et au moulin. Tu vois? Elle est au four et au moulin. En train de faire plusieurs activités, en train de faire plusieurs choses. Elle se débat ici, elle se débat là. À un moment, elle se rend compte qu'elle n'en peut plus. Et elle voit, de temps en temps, qu'elle passe dans le salon pour aller attraper un oignon quelque part là-bas ou bien pour aller donner une instruction. Elle voit Jésus qui est assis et puis Marie qui est assise à ses pieds et puis qui écoute religieusement ce qu'il dit. Elle prend des notes, elle a un cahier, tout ça là. Elle dit, mais Seigneur, c'est quoi ? Cette affaire, ça ne te fait rien. Hein? Je suis là. Hein? Je suis allé acheter la banane, je suis allé acheter le poulet, je suis allé faire ceci, je suis allé faire cela. Et puis, Marie, elle est assise à tes pieds, elle est en train d'écouter. Ça ne te dit rien. Le Seigneur dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. À ce moment-là, il y avait une seule chose qui était importante. Et le mérite de Marie, c'est d'avoir reconnu cette chose-là. Amen. Vous savez, à plusieurs étapes de notre vie, il y a une chose qui est importante. Et si on s'inquiète et on s'agite pour d'autres choses, alors que le temps n'est pas venu, on rate des fois des saisons de notre vie. Et après, on met des années à les rattraper. Entre, dans l'adolescence, généralement, entre, disons, l'âge de 10 ans et l'âge de 25 ans, ça dure 15 ans, même pas, des fois même 22 ans. Moi, je connais des gens à 22 ans, ils ont déjà fini leurs études. Entre 10 ans et 22 ans, il y a 12 ans de notre vie, là, il y a une seule chose qui est importante, apprendre, éducation. Quand tu t'inquiètes pour autre chose, pour les habits, pour les femmes, pour les amis, pour les candidats, pour toutes les sortes d'activités, qu'est-ce que tu fais? Tu te disperses. Et si tu n'apprends pas jusqu'à l'âge de 22 ans, et qu'à 22 ans, tu n'as pas sorti un bachelor ou bien un master ou un diplôme d'ingénieur ou tu n'es pas déjà avancé dans ta carrière médicale ou ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de rater une première saison. Pourquoi? Parce que à partir de 22 ans jusqu'à 30 ans, il y a encore une chose qui est importante. Ce n'est plus maintenant d'apprendre. C'est maintenant de se faire sa place. C'est de construire. Et généralement de se marier. Et si la personne encore rate cette saison-là, elle se retrouve maintenant à 40 ans. C'est à 40 ans maintenant que tu veux apprendre. C'est à 40 ans maintenant que tu veux commencer à faire les diplômes. Ça dit que nous-mêmes, notre responsabilité en tant que parents, c'est d'amener nos enfants à reconnaître les différentes saisons dans leur vie. Il y a des saisons. Amen. Il y a des saisons. Tu vas dire, oui, mais on peut rattraper. Je dis, c'est vrai. Mais quand vous avez des personnes, par exemple, qui font des enfants à 45 ans, toi, tu es un homme. Normalement, à 30 ans, tu es déjà marié et tout, tu es déjà assis. Normalement. Tu as même déjà commencé à faire des enfants. Pourquoi? Parce que si tu fais tes enfants à 45 ans, quand il aura 15 ans, tu auras 60 ans. Toi, tu peux t'amuser, tu peux à 60 ans, c'est là que tu vas gérer un enfant de 15 ans. C'est pas possible. Dieu a fait les temps et les saisons. Si tu l'as eu à 25 ans, lorsqu'il aura 15 ans, toi, tu en auras 40. Tu peux le gérer. Et tu es même vraiment dans la saison. Mais si tu laisses, il faut identifier La chose à faire à cette période-là, il faut pouvoir identifier le temps est arrivé pour ci, le temps est arrivé pour ça, le temps est arrivé pour ça, et se concentrer dessus et l'accomplir. Ne pas jouer. C'est le diable qui veut nous amener à jouer. Vous voyez? Donc, la saison, c'était une saison. Jésus a parcouru des kilomètres et des kilomètres pour venir voir Marthe et Marie, leur communiquer un message. Marie, sans chercher à savoir, sans chercher à discerner. Il faut discerner le temps, il faut discerner la saison. Elle commence à se lancer dans des cuisines de plats et tout ça. Certainement, vraiment, c'était d'une bonne intention. Très, très bonne. Elle a dû dresser la table, faire sortir tous ses livres de cuisine pour épater le Seigneur, lui offrir un dîner, mais digne de... Mais ça, c'est toi qui as décidé. Pourquoi tu veux que le Seigneur oblige Marie à venir t'aider dedans? Fais-le. Et c'est souvent ça l'handicap de certaines personnes qui sont agitées. Ils s'agitent dans des choses, ils s'inquiètent pour des choses et ils veulent communiquer leur inquiétude aux autres. Et très souvent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les autres ne sont pas inquiétés comme eux. Pourquoi les autres ne voient pas le danger comme eux. Mais vous ne voyez pas que c'est grave. Je dis, mais qu'est-ce qui est grave, Omar? C'est comme... Des fois, tu viens, tu expliques ta situation au pasteur. Tu veux que le pasteur commence à trembler comme toi. Mais s'il tremble comme toi, qui va régler le problème? Imagine, tu viens. Tu as un problème, tu pleures, tu viens. Pasteur, vraiment... Ces choses, ça va pas, pasteur, faut m'aider. Puis le pasteur dit, ouais, Seigneur, vous m'aidez. Il y en a qui doivent pouvoir. C'est que là, maintenant, c'est grave. Il y en a qui doivent pouvoir garder leur calme en face de la situation. Alléluia. Il y en a qui ne doivent pas dramatiser la situation. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui veulent justement que les gens qui sont autour de lui dramatisent les situations comme eux, ils dramatisent la situation. Comme eux, ils s'inquiètent. Mais le Seigneur dit, on ne doit pas s'inquiéter pour beaucoup de choses. On doit s'inquiéter que pour des choses qui sont essentielles. Que pour des choses qui sont importantes. Alléluia. Que pour des choses qui sont primordiales. Et une fois, il a dit aux gens, il a dit, écoutez, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Inquiétez-vous de votre état spirituel. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais il a dit quoi? Est-ce que tu sois en bonne santé? Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, la seule chose dont on doit s'inquiéter, c'est de l'état de notre âme. Amen. Et si notre âme est en bon état, alors, nous allons prospérer et être en bonne santé. Mais si notre âme est en mauvais état, quelle que soit l'inquiétude, quels que soient les troubles et les efforts que nous allons mettre, la situation ne pourra jamais s'améliorer, s'arranger. Occupons-nous de l'état de notre âme. Alléluia. Et Marthe, elle s'occupait de l'état du corps. Vous savez, il faut apprendre à reconnaître des fois l'importance de l'enseignement. Hein. Un bon enseignement, ça vaut mieux que un hamburger. Hein. Moi, il y a des fois, vous savez, je suis déjà allé à des conférences. Quand la personne finit de prêcher, ou bien tu écoutes un orateur, et l'orateur finit son message, tellement ça te chicote, même si tu avais prévu aller manger, tu peux même pas manger. Ça te challenge même, ça te booste, tu te rassasies en même temps, tu n'as plus envie de manger autre chose, parce que tout de suite, la personne te fait rêver, il te permet de te projeter, mais tu vois que tu es trop loin, et que tu as perdu du temps, des fois même tu vas lire la Bible jusqu'au matin, parce que tu te dis, non my God, il y a des gens qui sont avancés, tu vois. Mais il y a des moments, je sais pas, tu dois aller écouter un message, tu dis non, on va aller dîner, on va aller faire ceci. Des fois, la nourriture physique, ce n'est que pour nourrir le corps. Mais nous devons aussi apprendre à nourrir l'esprit et à nourrir l'âme, d'où nous tirons la puissance qui nous permettra de réaliser des grandes choses. Amen. Des fois, il faut arrêter de s'agiter. Il faut arrêter de s'inquiéter. Et puis, il faut commencer maintenant à nourrir l'esprit. Vous savez, vous pouvez être confronté à un problème. Et le problème vous semble insurmontable. Et le problème ressemble à une montagne que vous n'allez jamais pouvoir dépasser. C'est pourquoi faire aussi ce qu'on appelle des retraites. Ou bien qu'on s'enferme. La situation te dépasse. Enferme-toi dans ta chambre. Prends ta Bible. Commence à la lire. Médite. Écoute les messages. Jusqu'à ce que ton esprit commence à voir la situation d'une manière différente. Quand tu sortiras de là, tu sortiras plus grand que le problème. Plus grand que la situation. Parce que tu auras entendu ce que le Seigneur t'aura dit vis-à-vis du problème. Amen. Fixe-toi des priorités et poursuis-les. Vous savez, généralement, les personnes qui vous gardent occupés, qui vous gardent distraits, qui vous emmènent dans toutes sortes de choses, ils vont vous reprocher souvent vos baisses de performance. Si vous êtes un pasteur et que vous passez votre temps à courir à gauche, à droite, dès qu'on vous appelle, vous courez là, dès qu'on vous appelle, dès qu'on vous sonne, vous courez là, vous appelez tout le monde de ce genre, vous ne prévoyez plus vos messages. Les mêmes là que vous appelez, chez qui vous courez tout le temps parce que son enfant a mal dormi, parce que papou a eu mal au ventre à minuit, ce genre de choses là. Le dimanche matin, quand tu vas commencer à dire alléluia, alléluia, tu es fatigué comme ça parce que tu n'as même pas pu te reposer toute la semaine, tu n'as même pas pu préparer un message, tu n'as même pas de verset. Quand tu commences à prêcher, on dit oh mais c'est le message du mois passé là que le pasteur encore est en train. Et il n'a plus de message, il n'a plus de message. La même personne qui t'empêche de faire ton message là, c'est le même qui va dire que tu n'as plus de message. On dirait que le pasteur a perdu l'onction. Oui. Vous avez fini l'onction du pasteur? Les hommes politiques, les hommes d'affaires, ils sont obligés de se fixer des priorités. Tout le monde veut les rencontrer, tout le monde veut parler avec eux, mais ce n'est pas, c'est-à-dire tous les rendez-vous ne sont pas forcément positifs pour toi. Toutes les histoires ne sont pas forcément positives. Il faut apprendre à fixer des priorités. Moi, en tout cas, j'ai une priorité, mon temps avec le Seigneur, rien ni personne ne peut changer ça. Même si on me dit, oui, c'est la fin du monde, les immeubles sont en train de s'effondrer, tout ça, je dis, laissez-moi finir ma méditation, ma prière d'abord, et quand je vais sortir, on verra. Si je meurs en pleine méditation, en pleine prière, mais gloire à Dieu, aller direct dans le royaume de Dieu, quoi le problème? Moi, j'ai pas peur de la mort. C'est les gens qui sont morts spirituellement qui ont peur de la mort. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça, c'est fort. Laissez les morts enterrer les morts. Toujours funérailles, et finira et veiller, veiller, finira et finira. Mais je sais pas. Le gars, vous allez dire que le pasteur est dur. Mais nous, c'est notre culture africaine. Quand le frère était vivant, tu ne partais pas lui rendre visite. Tu ne lui parlais pas de Jésus. Tu n'as rien fait pour lui. Il était malade, tu n'as pas prié pour lui. Tu ne lui as pas donné de médicaments. Tu n'as rien fait pour lui. Maintenant qu'il est mort, tu prends le funérail, tu déposes ça sur sa tête. Tu voyages même à cause de ça, tu payes billets d'avion, tu cotises ici, tu cotises là, tu t'appauvris. Parce que le gars, il est déjà mort. Il n'y a rien que tu peux faire pour lui qui va lui permettre d'avancer. Rien. Rien. Mais on investit dans la mort. Et ici, dans la francophonie, c'est une culture. Chaque année, ils vont aller acheter des bouquets de fleurs de 200 euros, 300 euros. Leurs enfants sont en train de... Ils n'ont même pas des livres même pour pouvoir lire leurs trucs, avancer, des dictionnaires, ce genre de choses. Investir dans la culture, dans la formation, dans l'éducation, dans les voyages des enfants. Toi, c'est dans les cadavres que tu vas investir. On investit dans les vivants. C'est du... Non. Donnez l'argent aux vivants. Celui qui est vivant, quand vous lui donnez de l'argent, il peut faire quelque chose avec. Quand vous donnez l'argent à mort, il fait quoi? Je vous ai déjà raconté l'histoire, non? Un monsieur qui a fait jurer à ses quatre fils que lorsqu'il va mourir, il faut que chacun de ses fils lui donne 25 millions. Il dit, mais pourquoi, papa, tout ça? Il dit, non, parce que moi, selon ma culture, quand on meurt, tous ceux avec lesquels on nous enterre, on retrouve ça de l'autre côté. Donc, chacun d'entre vous, vous devez me jurer que vous allez me donner 25 millions, 25 millions. Les quatre ont dit, oui, papa, on est d'accord. Le jour des funérailles, ils ont ouvert le tombeau. Le premier frère, il a dit, papa, je t'ai promis, vraiment, tu m'as donné la vie, je te dois tout. Tu as payé mes études, je t'ai promis 25 millions, voilà les 25 millions. Il a jeté le sac de 25 millions dans le tombeau. Le deuxième aussi vient, il dit, vraiment, papa, c'est mal, c'est dur, ça me fait mal, mes enfants doivent aller à l'université, mais vraiment, comme j'ai promis, tiens, voilà les 25 millions. Le troisième aussi a mis les 25 millions. Le quatrième est venu, il a ouvert son chéquier. Il a fait un chèque de 100 millions. Il a pris les trois sacs là de 25 millions, 25 millions, 75 millions, il l'a mis dans le coffre de sa voiture. Il fait le chèque de 100 millions, ben il dit, papa, en mon nom et au nom de mes frères, voilà les 100 millions qu'on t'a promis. Il a mis la date, il a signé le chèque, il dit, encaisse ça dans la banque du ciel là-bas, ils ont fermé le cercueil, il a pris sa voiture, il est parti. Jusqu'à présent, le chèque n'a pas été encaissé. My God! On s'agite et on s'inquiète pour trop de choses. Pour beaucoup de choses. On s'inquiète pour trop de choses. Une seule est importante. L'état de notre âme. That's all. Amen. Voyez, donc Jésus est venu de loin pour enseigner, pour les former. Et la priorité à ce moment-là, ce n'était pas la nourriture. Amen. Nous nous donnons souvent trop d'activités, très peu valent vraiment le coup. Bon, j'ai déjà parlé dessus. Vous savez ce que Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Amen. Il dit, je fais une chose. Il ne fait pas des choses. Il ne fait pas plusieurs choses. Il fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je fais quoi? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il court. Il laisse ce qui est en arrière en arrière. Il y a des gens qui sont trop dans le passé. Mon ami, tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer ton avenir. Laisse ce qui est en arrière, et commence à courir vers le but. Quel que soit là où tu as commencé, ce n'est pas ça qui va déterminer là où tu vas finir. Si tu passes ton temps à regarder là où tu as commencé, ben tu risques de finir là où tu as commencé, parce que tu ne vas pas avancer. Fixe-toi un but, commence à le poursuivre. Laisse les choses en arrière. Le passé appartient au passé. Le présent, il te permet de bâtir le futur. Amen. Ne gaspille pas ton présent à vivre au passé. Troisièmement, bâtis des relations saines. Dis à ton voisin, bâtis des relations saines et profitables. Amen. Vous savez, dans votre entourage, il y a des personnes que vous ne choisissez pas. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des relations qui sont imposées. Vous êtes obligé de faire quoi? De les gérer. Et gérer-les au mieux. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour pouvoir gérer vos relations. Et je pense que j'aurai une série d'enseignements où je vais vous apprendre justement à gérer vos relations. Il s'agit de qui? Les personnes que vous connaissez au travail. C'est pas vous qui les choisissez. À moins que ce soit votre entreprise et que vous choisissez vos collaborateurs. Sinon, vous êtes obligé de les gérer. Les personnes que vous fréquentez à l'école, vous êtes obligé de les gérer. Les personnes que vous rencontrez à l'église, les membres de votre famille. Mais en dehors de ces personnes-là, vos amis, les gens avec qui vous passez du temps, c'est vous qui les choisissez. Amen. Donc, ce sont ces personnes-là que vous choisissez, vos amis, ceux que vous appelez vos meilleurs amis. Moi, j'aime bien les gens qui sont promptes à dire, c'est mon ami, c'est mon ami. Hein? Tu as rencontré la personne hier, c'est ton ami déjà. Un ami? Vos amis, votre cercle d'amis, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Dans la version anglaise de la Bible, dans Proverbes chapitre 12, verset 26, je vais lire. Je sais qu'en français, ça dit légèrement, c'est un peu différent. Vous pouvez quand même prendre. Hein? Proverbes 12, verset 26. Mais je n'aime pas la version française. Hein? Je vous dis à l'avance. Je vais la lire et puis je vais vous donner la version en anglais, telle que je la préfère. Proverbes 12, verset 26. La Bible dit, le juste montre à son ami la bonne voie. Bon, là, déjà, à ce stade, c'est bon. Il dit, mais la voie des méchants les égare. En anglais, la Bible dit, the righteous shall choose his friend carefully. C'est-à-dire, le juste doit choisir ses amis prudemment. Amen. For the way of the wicked leads them astray. Parce que les voies du méchant, justement, parce que les voies du méchant les égare. Tu vois? Donc, le juste doit choisir ses amis avec attention, prudemment. Parce que les voies des méchants les égarent. Donc, sachant que les voies du méchant peuvent t'égarer, fais attention à la manière dont tu choisis tes amis. Amen. Parce que normalement, un bon ami, il doit t'emmener vraiment dans de bonnes voies. Deuxième passage, c'est dans Proverbes chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer. Amen. Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. En anglais, ça dit, as iron sharpens iron, so a man the countenance of his friends. C'est-à-dire, comme le fer, en anglais, c'est ce que ça dit, comme le fer aussi aiguise le fer, de la même manière, un homme, la contenance, c'est-à-dire le contenu, la substance de ses amis. En réalité, ces versions ne sont pas trop éloignées l'une de l'autre, mais il faut comprendre la subtilité. Quand il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Il ne faut pas seulement se cantonner à colère. Un homme peut exciter la joie d'un homme. Un homme peut exciter l'intelligence d'un homme. Un homme peut exciter la persévérance d'un homme. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, comme le fer aiguise le fer, l'homme a la capacité de pouvoir exciter des sentiments et des sensations dans la vie d'un autre homme. Donc, si tu fais attention aux hommes et aux femmes qui sont autour de toi, à tes amis, c'est que tu es en train de faire attention à ta vie. Amen. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de nos jeunes sœurs ont des, surtout celles qui vont à l'école, dans les lycées et tout, elles ont des expériences sexuelles un peu trop tôt dans leur vie. Généralement à l'âge de 13 ans, de 14 ans. Des fois même plus tôt que ça. Vous savez pourquoi? C'est à cause de leurs amis. Ce sont les amis qui les poussent à le faire. C'est même pas comme si elles-mêmes elles veulent le faire, hein. Mais quand elles reviennent d'un week-end, ah, moi j'étais avec mon copain, j'ai connu un ami, un gars, même si elle n'a pas aimé, oh, c'était formidable, c'était fantastique. Toi tu l'as déjà fait? Non, tu l'as pas encore fait. Ben, il faut le faire, tu vas voir. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils excitent le désir d'autres jeunes de faire certaines choses. La plupart ne fument pas parce qu'ils aiment la fumée et qu'ils ont envie de fumer. Ils fument parce que leurs amis les ont excités à fumer. Donc en réalité, c'est ça. C'est l'homme qui fait quoi? Qui excite la personne à faire. Et on veut faire comme. Donc si on prend le temps de nous entourer de personnes qui vont nous exciter à faire des choses positives, à faire de bonnes choses, alors on sera toujours challengé et poussé à faire de bonnes choses. Quand un enfant a des amis à l'école qui sont premiers de la classe, qui sont intelligents, qui aiment voyager, qui aiment la culture, lui aussi, il va étudier, il va vouloir voyager, il va aimer également la culture. S'il a des amis qui aiment le sport, il va aimer le sport. Mais s'il a des amis qui aiment fumer, qui aiment boire, tu vois, celui qui marche avec les sages devient sage. Donc, en fonction de ce que tu veux que ta vie soit, regardez une femme qui est mariée et qui a 3 amis qui sont divorcés, par exemple. Ou bien elle a deux amis qui sont divorcés. Elle a une amie qui est lesbienne et puis elle a une autre amie qui, elle n'est pas pour le mariage. Et tu ne peux pas être ami avec ce genre de femme. Parce que même en te saluant même, alors, et ton idiot de mari, comment il va? Hein? Ben c'est ça. Vas-y alors, qu'est-ce qui t'a encore sorti celui-là? Ça dit que tu ne vas faire que, dans leur entourage, tu ne vas faire qu'entendre des trucs. Au fait, j'ai cru le voir, elle n'a pas vu. J'ai cru le voir là d'un restaurant avec une dame. Et quand tu vas commencer à parler, c'est-à-dire qu'elles vont t'exciter un matin, tu vas dire au monsieur, bon écoute, j'en ai marre, va-t'en. Elles seront contentes. Pourquoi? Parce que elles, c'est leur état, elles ont choisi ça. Mais toi, ton mauvais choix, ça a été de les choisir comme amis. Choisis des personnes qui bâtissent leur foyer. Choisis des personnes qui ont envie d'avancer dans le couple. Choisissez des couples amis avec lesquels vous allez pouvoir partager certaines choses, certaines expériences, sortir, manger et tout, que d'avoir des amis bizarres. Vous comprenez? Donc, si vous voulez pas avoir une vie bizarre, il faut faire attention. Vous savez, je dis ami. Je n'ai pas dit fréquentation. Il y a des gens que vous fréquentez. Vous n'allez pas, c'est pas vous qui allez les changer. OK? Votre frère, vous n'allez pas le chasser parce qu'il a un comportement qui est bizarre. Vous n'avez pas choisi. Il est votre frère. Vous ne le choisissez pas. Mais vos amis, c'est vous qui les choisissez. Comprenez? Donc, parce que vous exercez le choix en ce qui concerne vos amis, choisissez des personnes qui vont vous, ce qu'on dit en anglais, qui vont vous challenger, qui vont vous provoquer à devenir meilleur. N'allez pas vers le pire. Allez vers le meilleur. Allez vers ceux qui vont vous pousser à aimer encore Dieu davantage. Allez vers ceux qui vont vous pousser à vous lever la nuit pour lire la Bible. Allez vers ceux qui vont vous pousser à être fidèle avec Dieu dans les finances. À ceux qui vont vous exciter véritablement à devenir des grands hommes de Dieu. Vers des personnes qui vont vous inspirer. Des personnes qui vont vous exciter même à entretenir votre famille et à les faire voyager, ce genre de choses. Il y a ce genre de personnes-là. Choisissez ce genre de personnes comme amis. Mais vous savez, très souvent, on n'aime pas ce genre de personnes. Parce qu'on aime bien avoir des gens qui nous font paraître plus grands que nous sommes. C'est nous, notre famille, elle est bien, c'est nous, on est devant, c'est nous, on a ceci, on a cela. Mais le problème, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui est plus avancé que toi pour pouvoir te faire avancer. Amen. Ton apparence, ton attitude et tes dispositions sont quotidiennement influencées par tes compagnies. Quotidiennement. Amen. Et il faut choisir comme amis ceux qui vous rendent plus avertis, plus concentrés dans vos choses, plus fidèles. Amen. Aux choses importantes pour vous. À l'opposé, ceux qui vous laissent affaiblis. Il y a des gens, quand vous finissez de parler avec eux, vous êtes affaiblis. Vous êtes vidés après une conversation avec eux. Parce qu'ils aiment critiquer. Ils aiment ramener tout à eux. Ils se concentrent sur eux-mêmes. Et puis sur les limitations, les impossibilités. C'est-à-dire, tu as un projet, quand tu parles avec lui, quand tu finis de parler avec lui, tu as envie d'aller prendre le projet, même aller jeter à la poubelle. Mon frère, mais toi, tu rêves. Tu crois qu'ici, dans ce pays-là, de racistes-là, tu penses que toi, tu peux devenir quelque chose ici? Il dit, mais moi, je connais des gens, ils ont fait la même chose que toi. Aujourd'hui, ils sont en prison. Crédit ne veut pas finir sur le dos. Si tu t'amuses, là, tu vas... Quand tu finis de parler avec le gars, tu es là comme ça. Parce que, au lieu de te communiquer de l'énergie, de la foi, de la force et tout ça, il n'a fait que drainer de toi toutes sortes d'énergie que tu avais. Tu as une conversation comme ça, tu as un ami comme ça, tu parles avec lui une fois, deux fois. Mon ami, Dieu te bénisse. L'abbé, en parlant de David dit que ses frères, lorsqu'il est parti, qu'il voulait affronter Goliath, ses propres frères, même père, je ne sais pas si c'est même mère. Mais lui, on dit, mais écoute, toi, on te connaît. Tu es un petit prétentieux arrogant. Un vil type comme toi. Qu'est-ce que tu peux faire à un grand guerrier? Nous tous, même, on a peur de l'affronter. La Bible dit, David a regardé ses frères et s'est détourné d'eux. On n'a plus jamais entendu parler des frères de David depuis cet événement-là, jusqu'à ce que David meure. Il y a des David. Ses propres frères, il leur a dit, écoutez, vous et moi, là, on ne peut pas marcher ensemble. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de sentiments. Il ne faut même pas rentrer dans des considérations. Tu sens que la personne, et j'ai dit, je vais vous donner les sept catégories de personnes qu'il faut de personnalité à éliminer de votre entourage. Si quelqu'un est jaloux de toi, fais très attention. Vous savez, il y a des gens, ils sont près de vous lorsque ça va mal. Mais la même personne qui est près de vous quand ça va mal, elle peut s'avérer être dangereuse lorsque ça va bien. C'est pas parce que la personne était là quand ça allait mal, que quand ça va bien, ça va aller. Hein? Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours quand ça va mal chez les autres. Parce qu'ils veulent toujours jouer au bon samaritain. Maintenant, quand ça commence à aller, tu as une nomination, tu as une percée, tu as eu un salaire. Oh, toi, tu es ingrat. La jalousie maintenant commence à s'exciter. La personne ne te salue plus de la même manière. Avant, il était magnanime, il était gentil, il avait la compassion, mais c'était pas, il avait une sorte de pitié. Maintenant, il a de la jalousie. Fais attention. Quand les gens sont jaloux de toi, tu sais qu'il est jaloux. Et mets 3 kilomètres en toi et lui. Parce que même un homme qui est faible est capable de faire du mal. Et tu peux te retrouver être poignardé par des gens que tu as cru être tes amis. Tu comprends? La séparation, elle est biblique. Quand les paroles ont commencé à naître entre Abraham et Lot, Abraham a dit à Lot, on ne va pas faire palabre, Lot. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Regarde, le terrain, le pays est grand, il est vaste. Choisis un endroit où tu vas partir. Tellement le cœur de Lot était mauvais, vous savez où il est parti? À Sodome et Gomorre. Oh my God! Et tellement la relation, tu sais, certaines relations peuvent empêcher Dieu de te parler. Oh my God, oh my God. Tu sais que certaines personnes que tu as dans ton entourage peuvent faire que Dieu, pendant un temps, va attendre que tu te sépares de ces personnes-là. La Bible dit que lorsque Lot se sépara d'Abraham, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant dit à Abraham, Abraham, Abraham. Tout le temps où il était avec Lot, Dieu ne lui parlait plus. Parce que Dieu a dit, tu as choisi ton ami, non? Moi, je vais être ton ami. Toi, tu veux pas que moi, Dieu, sois ton ami. Tu veux être ami de Lot. Va avec Lot. Sois l'ami de Lot. Quand ils ont commencé maintenant à faire des histoires, Abraham a dit, bon, pardon, laisse-moi, je vais prendre mon chemin. Dès qu'il s'est séparé de Lot, Dieu lui dit, bon, on en a fait. Tu comprends? Faut pas forcer certaines relations. Faut pas les maintenir contre toi-même. Les bons amis sont faciles à identifier. Leurs intérêts sont nobles. Prends des amis qui ont des intérêts nobles, qui défendent des vraies causes, qui ont des vraies valeurs. Pas des gens qui sont arrêtés aux marques. Oh, c'est quoi la marque de tes lunettes? Moi, j'ai un costume Dolce & Gabbana, mon ami. Tu as un costume Dolce & Gabbana. Toi, ton papa, il travaille chez Dolce & Gabbana. Ils achètent les costumes ils fabriquent à 2 euros, ils vendent à 100, à 2000 euros. Bon, si toi, tu es dans les affaires de Dolce & Gabbana, de Lacoste et tout ça là, que Dieu te bénisse, suis ton chemin. Moi, j'ai d'autres causes plus nobles à poursuivre, mon ami. Ils partagent tes valeurs, des valeurs d'honnêteté, des valeurs morales, ton idéal, tes aspirations. Quand tu leur parles de quelque chose qui te passionne, ils ne vont pas essayer de te casser. Mais vont essayer de comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses. Ça, c'est les vrais amis, les bons amis. Ils te challengent toujours à faire mieux. Ils vont toujours te pousser à t'améliorer, à faire mieux. Même si il va pas forcément dans la même église que toi. Mais le jour où il te voit pas, il te voit que tu vas pas à l'église deux fois, ton frère dit, mais toi, tu n'es pas un chrétien. Mais comment ça se fait que tu vas plus à l'église? Moi, j'ai des amis qui sont pas des chrétiens. Mais qui sont de très, très bons amis. Et qui vont t'encourager même. Moi, j'ai un ami, il me dit, une fois on s'est rencontré en plein plateau, mais le gars, il est devenu, je sais pas, le numéro 2 d'une grande entreprise à Chosa Abidjan. Il a laissé ses amis, oh voilà mon ami, tout ça, il est venu, il dit, mais vraiment, ce que j'admire chez toi, c'est que le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus, tu n'as plus jamais été le même. Il dit, vraiment, je t'encourage dans ce que tu fais, je vois ce que tu fais, et je sais que Dieu est avec toi. Persévère, ne lâche pas. Et puis, il faut prier pour nous. Un jour, on va te rejoindre. Il dit, voilà des gens, tu vois. Lui-même, il sait qu'il n'est pas sauvé, mais il sait reconnaître. Il sait reconnaître, tu vois. Mais les gens qui passent leur temps à se moquer de toi et ce genre de choses-là, tu les éloignes. Amen. Ils osent, un vrai ami ose te corriger quand tu te trompes. Il n'est pas un béni oui-oui qui est tout le temps à te dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu fais des histoires avec ta femme, tu n'as pas raison, il va dire, mon frère, celle-là, tu n'as pas raison. Oh, mais elle-même, elle est trop comme ça. On la connaît. Je te dis, moi, le gars, c'est-à-dire qu'il ne va jamais chercher à... Il peut pas te contredire, il sera toujours en train de t'encourager dans tes erreurs. Quand tu vois que quelqu'un t'encourage dans tes erreurs, fais très, 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 très attention. Encore même plus attention, tu vois. faut avoir des gens autour de toi qui peuvent te dire la vérité quand tu te trompes. Amen. Et ça ne doit pas te faire mal outre mesure. Il y a des gens, quand tu leur dis la vérité, ils se fâchent. Malheur à toi, c'est dommage. Au contraire, il faut dire merci de m'avoir délivré. Alléluia. Voilà. Et puis, il reste avec toi à travers tes victoires et aussi à travers tes échecs. Amen. Il est content quand tu gagnes. Et puis quand tu perds, il est encore là pour pouvoir te soutenir. Amen. Tu sais, tu ne dois pas avoir trop d'amis dans ta vie aussi. Si toi seul, tu as 10 amis, c'est que tu as un problème. Oui, 10 grands, 10 bons amis, c'est que tu as un problème. Jésus lui-même, il en avait 3. Il y avait les 3, il y avait les 12. Et même parmi les 3, il y en avait un qui était encore plus proche de lui. C'était Jean. Et vous allez remarquer une chose. Jésus, il était très fin dans ses relations. Hein. Jean, là, c'est le seul qui est resté lorsqu'il était sur la croix. La Bible dit qu'il y avait Marie, la mère de Jésus, Marie et Marthe, à qui il était allé rendre visite, et Jean, qu'il aimait. Les autres disciples, là, ils avaient tous fui. Tu as des amis, quand ça va chauffer, ils vont fuir. Tu vois? Donc, il faut avoir des amis qui peuvent être là quand ça ne va pas. Des amis qui peuvent te soutenir. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. 2010, il faut faire le tri, hein, dans tes amis. Si tu veux aller loin, il faut trier. Alléluia. Mieux vaut investir dans des relations qui vont quelque part. Considère que ton temps est quelque chose de précieux. Amen. Même si l'argent n'est rien, mais le temps, c'est important. Tu vois. Et donc, si tu dois parler avec quelqu'un, autant parler avec quelqu'un pour construire que de parler avec quelqu'un juste pour critiquer, pour raconter sa vie. Tu vois. Gère ton temps. Parce que ton temps est un investissement précieux. Si tu l'investis dans des choses qui sont importantes, tu vas récolter des fruits extraordinaires pour ta vie. Alléluia. Tu vas prier ton Dieu ce soir. Première chose, nous devons honorer Dieu dans tout ce que nous faisons et apprendre à l'honorer. Amen. Je veux monter une entreprise, je veux faire quelque chose, je veux me marier, je veux établir des choses, je veux ouvrir des choses, je veux réaliser des projets. Où est la place de Dieu? Où est l'intérêt de Dieu? Amen. Une fois que j'ai mis Dieu dans mes activités, dans mes affaires, après je reste concentré sur mes objectifs. Je ne me distrais pas. Demande au Seigneur maintenant d'ouvrir tes yeux sur toutes les sources de distraction qu'il y a dans ta vie, toutes les mauvaises relations qu'il y a dans ta vie. Et dis-lui, Seigneur, donne-moi le discernement, donne-moi l'intelligence nécessaire, donne-moi la sagesse nécessaire, la sagesse humaine nécessaire pour pouvoir les identifier, pour pouvoir régler ces problèmes-là, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Dans ma vie. Alléluia. Amène des hommes et des femmes dans ma vie. Des relations qui viennent de toi, des connexions divines. Des connexions que toi-même, Seigneur, tu as établies. Des hommes qui vont apporter de l'excellence dans ma vie. Des femmes qui vont apporter de l'excellence dans ma vie. Des personnes qui vont me challenger, me pousser à faire mieux, à faire davantage, à me surpasser, à me dépasser. Des personnes qui vont élever mon niveau de langage, qui vont élever mon niveau de présentation, qui vont élever mon niveau de réflexion, mon niveau de sagesse, mon niveau de spiritualité, qui vont élever mon niveau, mon intégrité morale et mon intégrité dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Yes, Lord. Je veux avancer. Je veux avancer, Seigneur. Je continue d'avancer. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, tu dois avancer. Tu dois avancer en force, en foi, en sagesse, en puissance, en onction, en autorité, en intelligence, en discernement, en connaissance. J'avance. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.